Dans le cadre de l'émission L'écho de ma commune, animée habituellement par Marie-France Guimard Roche, que je remplace aujourd'hui, je reçois dans les studios de Radio Grand Ciel à Dreux M. Jacques Lemar, conseiller départemental du canton de Dreux 2 et président d'Eure-et-Loir Numérique. Bonjour Monsieur le conseiller, ou bonjour Monsieur le président, ou bonjour Jacques, puisque nous sommes de vieux Drouais, fils de commerçants du centre-ville, et nous avons même occupé les mêmes bancs à Saint-Pierre, je ne dirai pas les années.
Bonjour Jean-Marie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. D'habitude, lors de mes interviews, je suis accompagné d'Annie Duval-Pétrix, journaliste à Aimetaville. Elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui, elle ne vous posera donc pas la dernière question de cette entrevue. L'actualité, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Pourtant, nous ne parlerons pas de l'Ukraine. Beaucoup d'autres le font à notre place. Nous affirmerons simplement notre soutien à ce pays envahi, en espérant qu'une solution soit rapidement trouvée pour que cesse cette guerre que beaucoup pensaient impossible au XXIe siècle. Tout d'abord, une petite parenthèse sur la fibre. Tout se passe bien, le calendrier est respecté.
Oui, tout se passe bien avec très grande satisfaction, à la fois pour les élus qui ont suivi l'idée en 2008 de fibrer ce département, et puis à la fois par nos concitoyens qui s'aperçoivent aujourd'hui que ce département, que l'on habite en ville, c'est-à-dire en milieu urbain ou en milieu rural, on a la dernière technologie la plus performante à sa disposition. J'ai l'habitude de dire, comme un New-Yorkais ou quelqu'un qui habite Tokyo. Voilà, il n'y a pas de différence. Et je crois que ce département avait besoin de cet équipement. Je rappelle que c'est un département essentiellement rural. Il n'y a pas de grande métropole. Il y a deux petites villes. Alors les maires de ces deux petites villes vont m'en vouloir quand je dis que Chartres et Dreux est une petite ville. Mais à l'échelle nationale, et quand on voit dans certains départements des grandes métropoles, effectivement, ce sont les métropoles qui dominent. Nous, en Eure-et-Loir, on est dans un département très rural, et avoir la fibre optique à la Godène dans le Perche, c'est quand même un espoir.
Mais c'est vrai que le département est un petit département. On n'est jamais plus que de 450 000 habitants. On peut dire que c'est un petit département avec effectivement une préfecture très moyenne et en nombre d'habitants, pardon, pour Chartres. Et puis des sous-préfectures d'allure modeste. L'actualité locale dont on parle aujourd'hui, c'est l'autoroute A154. Alors, est-ce la motion votée à la majorité absolue au Conseil départemental du 8 novembre 2021 expédiée au président de la République et aux ministres concernés que le 28 janvier 2022, le bulletin officiel des annonces des marchés publics publie un avis de concession pour que les entreprises puissent manifester leur intérêt ? Cette procédure est normale. Mais quand on lit l'avis de concession, on s'aperçoit qu'un tronçon a été rajouté, le tronçon Oudendreux. Le texte est tellement ambigu que les élus s'inquiètent. Le député Marleix, les maires de Dreux et de Vernouillet, Pierre-Frédéric Billet et Damien Stéphaux, et le président de l'Aglo de Dreux, Gérard Sourisseau, il y a même aussi Madame Dessène, écrivent aux ministres concernés malgré que Madame le préfet assure que le tronçon Oudendreux restera gratuit. Que doit-on penser ?
Alors, tout d'abord, préciser que je suis en charge de ce dossier depuis les dernières élections de juin dernier. Ma mission sur la fibre optique se terminant, le président Christophe Le Dorben avait besoin de quelqu'un qui connaissait bien le dossier et qui avait l'expérience de ces dossiers importants, où il y a une discussion importante, et je dis constante, avec l'État. Donc la motion, le président m'a demandé de rédiger cette motion et c'est avec lui que l'on s'est mis d'accord sur le texte. Et comme tu as pu l'observer, ça a été voté à l'unanimité et avec des prises de parole qui étaient très en faveur de cette intervention auprès de l'État. Pourquoi ?
Oui, oui, il n'y avait pas l'ombre d'une
oui, mais,
opposition.
Mais pourquoi ? L'État, en 2018, après l'enquête publique, arrête cette DUP, cette déclaration d'utilité publique, en nous disant maintenant le processus va se mettre en place, la rédaction de ce que j'appelle moi le cahier des charges pour être soumis au concessionnaire qui voudrait bien répondre. Et on se retrouve en 2022 et l'État n'a pas bougé. Bon. Donc il était normal. Et c'est de la compétence du département de dire à l'État « respectez vos engagements ». L'engagement a été pris qu'après la DUP, les choses s'enclenchaient naturellement. On a encore perdu pas loin de 3 ans, et on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Il n'y a rien qui bloquait, l'enquête publique s'est révélée très favorable à l'autoroute. L'État n'avait pas lieu d'attendre. On attendait quoi ? Alors j'ai entendu les préfets successifs, sous-préfets, depuis ces dernières années, nous expliquer « Ah, bah oui, mais il y a des élections en vue ». On ne fera jamais l'autoroute, il y a toujours des élections. Et la dernière élection qu'on nous mettait en avant, c'était l'élection présidentielle. Bon, j'avoue que quand même, à un moment donné, il ne faut pas se moquer du monde où l'État trouve que c'est utile. Et la DUP, c'est utilité publique. Ou alors, voilà, on démarre le dossier.
La DUP, c'était avant les Gilets jaunes, c'était avant la crise, c'était avant le Covid, et c'était avant ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas, vu les événements, quelque chose qui pourrait nous laisser penser que le choix de 1995, et je dis 1995 au hasard, parce que c'est plus ancien que ça, est-ce qu'il n'y a pas peut-être mieux à faire mieux que ça, qu'un autoroute ? On dirait que, comme... Je dis souvent comme exemple une personne qui rentre au cinéma et puis qui s'aperçoit à la première image de projection qu'il s'est trompé de film et que c'est un super navet. Mais comme il a payé, il va rester jusqu'à la fin. C'est tellement idiot que je me demande si l'État ne réagit pas de la même manière. Ils ont décidé un tout autoroute à une époque où c'était tout à fait concevable, tout à fait réalisable. En 1995, on pensait bien que la mondialisation allait décupler et même plus que ça. Et là, on s'aperçoit que ça va coûter une fortune de voyager avec une voiture à essence, avec des... Oui. Que le péage, ça va encore amputer le pouvoir d'achat, et etc., etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans le sens moral de l'histoire ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un petit peu ? J'en arrive au Césaire. Le Césaire, Conseil économique et social et environnemental de la région, a été interpellé par des associations qui lui ont, pour que ce soit recevable, le Césaire a exigé 4000 pétitions papier. Et 4000 pétitions papier, ce n'est pas des pétitions informatiques comme on peut le faire relativement facilement et obtenir des centaines de milliers de réponses. Là, ça a été fait en papier. Et le Césaire, donc, a reçu cette demande de revoir un petit peu les décisions qui ont été faites. J'ai appris récemment que le président du Césaire de l'Eure appuyait la demande de ces associations. Vous avez été vous-même entendu par le Césaire. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça va devenir, tout ça ?
Alors, d'abord, revenir sur est-ce que cette autoroute est toujours d'actualité et d'utilité publique ? Alors, moi, je réponds, je suis très clair là-dessus, et nous sommes tous, beaucoup d'élus, majoritairement.
Oui, oui, non, mais ça, c'est incontestable.
Cette autoroute n'a jamais autant était indispensable pour ce département. Moi, je rappelle que c'est peut-être... Alors, on n'a pas de chance que c'est traîné autant de temps, mais la chance, peut-être, c'est qu'on doit pouvoir exiger du futur concessionnaire une autoroute extrêmement moderne. Parce que aujourd'hui, il n'est pas question d'aller dérouler 88 km de bitume sans à penser à avoir une autoroute extrêmement moderne qui sera adaptée à la circulation des 50 ou 80 années à venir, de la conduite autonome, de la voiture propre, etc., etc. Cette autoroute doit être une nouvelle conception, un nouveau moyen de circuler en toute sécurité et toujours à une vitesse qui permet de mieux communiquer en matière économique, mais aussi quand nos citoyens se déplacent. Ça va être l'enjeu de ce dossier. C'est de ne pas sortir une autoroute des années 50, mais une autoroute extrêmement moderne, extrêmement plaisante, et une autoroute qui tiendra compte surtout de l'environnement. Alors, le dossier est considérable, effectivement, mais ne crions pas avant d'avoir mal. Le concessionnaire n'est pas désigné, on ne sait pas qui sera le concessionnaire, et quand il sera désigné, quand il sera retenu, il aura 18 mois pour faire une proposition dans les 300 mètres qui ont été réservés pour inscrire l'autoroute sur les 88 km. J'espère que l'on aura face à nous un concessionnaire avec des équipes techniques extrêmement performantes pour pouvoir nous proposer les meilleures solutions. En tous les cas, c'est ma mission.
Oui.
Ma mission, c'est la première fois où le département prend à bras-le-corps ce dossier. On a toujours été favorable, on a voté. Je regardais mon dossier encore hier soir. Il y a eu plusieurs motions tout au long des années, de ces décennies, parce qu'on parle en décennies. Il y a eu des tas de motions qui ont été prises, etc. Cette fois-ci, Christophe Le Dorven, le président du département, a souhaité qu'il y ait un élu en charge. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'élu en charge. L'élu en charge est Jacques Lemarre. Et il m'a confié ce dossier avec un certain nombre d'axes. C'est-à-dire faire en sorte de ne pas subir cette autoroute et que cette autoroute soit un atout, notamment vis-à-vis de l'environnement, un atout vis-à-vis de sa modernité, pour que l'on puisse découvrir qu'on peut faire autre chose avec du bitume que ce que l'on a fait ces dernières années en France. Moi, j'espère qu'on va pouvoir aborder l'aspect économique, parce que là, il y a beaucoup de... Moi, j'ai une idée. Alors, elle sera certainement affinée avec les études que l'on va réaliser. On va se doter de moyens avec des cabinets qui seront des spécialistes pour ne pas se retrouver seul face au concessionnaire qui va chercher quoi ? Il va chercher la rentabilité à tout prix, la facilité. Non, il va falloir que le concessionnaire s'inscrive dans la difficulté pour satisfaire à la fois les besoins de ce département et satisfaire nos concitoyens.
Mais qu'est-ce que vous aurez comme moyen de pression ? Parce que l'expérience nous montre depuis que les concessionnaires existent que l'État s'est toujours mal débrouillé avec ses contrats. Il n'y a pas un mois dans les hebdomadaires, dans le Canard enchaîné, à la télévision, où il n'y a pas le scandale de l'incurie des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont signé des contrats toujours à l'avantage du concessionnaire. Et là, moi, je veux bien, je vous écoute et je suis ravi que vous ayez... je connais votre pugnacité, donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais quel pouvoir vous aurez, quel moyen, quelle puissance vous aurez pour les contrer ? Parce que, comme vous venez de le dire, ils cherchent le plus simple et le plus rentable.
D'abord, regardons l'aspect financier. Cette autoroute va coûter entre 900 millions et 1 milliard d'euros. On verra ça quand le concessionnaire fera sa proposition. En fait, ce sont nos estimations. Estimations de l'État qui a été vérifiée. Effectivement, c'est dans ces eaux-là. Il faut comprendre que l'État ne met que 30 millions d'euros dans l'affaire. L'État va encaisser pas moins de 200 millions d'euros de TVA. Et l'État met 30 millions d'euros et demande aux deux collectivités que sont l'agglomération de Dreux, les trois collectivités, l'agglomération de Dreux, l'agglomération de Chartres et le département, d'y mettre, en gros, pour les deux agglomérations chacun, entre 10 et 15 millions d'euros, et pour le département, aux alentours de 20 millions d'euros.
Et la région ?
La région ne participe, pas. Elle a délibéré.
Non, c'est bien le
favorablement. François Bonneau, là-dessus, a été honnête. Il a toujours été favorable à cette autoroute.
Oh, il pas toujours. Il a été, à un moment donné, il n'était pas très...
Alors, il a été converti.
Il a été converti, oui.
Partons du principe qu'il a été converti.
Voilà.
Mais aujourd'hui, il clame haut et fort que cette autoroute a une grande utilité. Je rappelle quand même que la région est en charge de l'économie. Et pour l'économie de la région, et notamment du nord de la région, cette autoroute devient essentielle. Je dirais même incontournable. Donc, je reviens au financement. L'État ne peut pas faire autrement, quand même. Ce sont les collectivités qui se sont engagées à verser la plus grosse part, si on additionne les trois collectivités. Mais... Alors, c'est pas sûr qu'on passe à la caisse. C'est pas sûr. Ça sera le résultat de l'étude du concessionnaire. Peut-être que l'on ne participera pas financièrement. Alors, moi, je pars du principe que faut pas commencer par là. Faut pas commencer par dire « faisons en sorte de ne rien verser » pour aboutir à ce que je disais tout à l'heure, à 88 km d'enrobé, sans intérêt. Enfin, sans intérêt, en dehors de faire circuler des camions qui ne dépensent pas un centime dans le département de la Loire, mais qui est autoroute ou qui n'est pas autoroute, ils continueront à utiliser nos routes. Aujourd'hui,
ou
faut voir...
Ou les voies secondaires, si c'est trop cher.
Faut voir... Alors, justement, parlons-en. Faut voir aujourd'hui ce que ça coûte au département. La situation actuelle coûte en vie. Il y a des accidents, non pas sur la 154, mais sur les routes secondaires, qui sont liées à cette mauvaise circulation et ces fameux bouchons, le bouchon de Saint-Rémy, le bouchon de Dreux dans sa traversée et le bouchon et les bouchons
ça fait pas
sur le secteur.
Là. Ça retarde, c'est tout.
Comment ?
Ça fait pas d'accident.
Si. Parce que pourquoi ça fait des accidents ? Parce qu'aujourd'hui, et je vais revenir sur l'histoire du tronçon Dreux-Houdan, aujourd'hui, on voit bien les automobilistes, quand ils arrivent de la 154 venant de la Normandie, venant d'Évreux. Qu'est-ce qu'ils font arriver à Nonancourt ? À Nonancourt, ils se posent la question, selon l'heure, selon le jour, par où je vais passer ? Pour quitter cette RN12, enfin ce tronçon, ce double tronçon, RN12-154, qui, il y a des jours, 35 000 véhicules jour. Hein. Je rappelle qu'une autoroute qui fonctionne bien, c'est 15 000 véhicules jour. Et que on voit se répartir les véhicules légers, mais également certains camions, malgré les interdictions, on les voit quitter cette RN12 pour aller à droite et à gauche. Et là, on a le même phénomène, et je vais reparler d'Oudan tout à l'heure, sur la RN12, et on a partout où il y a un ralentissement très fort, l'idée des particuliers, essentiellement, c'est vrai, parce que pour les camions, c'est un peu compliqué, c'est d'essayer de sortir de ces tronçons. Donc, c'est accidentogène d'aller se répandre sur les routes départementales. Et quand je vois la rocade ouest de Dreux, qui est identifiée 154, qui appartient au département, nous dépensons annuellement, uniquement pour son entretien, et réparer les ronds-points, etc., nous dépensons 800 000 euros par an, rien que de l'échangeur qui se trouve sur la RN12 où il y a Cora, jusqu'à la sortie qu'on appelle les ronds-points Léo, enfin, etc. etc. Ouais. 800 000 euros par an. Mais ce n'est rien par rapport à ce que l'on subit en ce moment avec la RN12 qui n'est pas aménagée. Pourquoi dans le dossier, on retrouve le tronçon Houdan Dreux. Pas question. La DUP ne parle pas de péage. Et ce tronçon a toujours été inscrit, est inscrit dans la DUP. Pourquoi on demande au concessionnaire de repartir de Houdan pour réfléchir, non pas pour réaménager la partie Houdan jusqu'à Dreux, ça a été fait par l'État il n'y a pas très longtemps, etc. Sauf que l'on sait aujourd'hui la circulation poids lourd et voiture particulière qui traverse Dreux sera en augmentation après son réaménagement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et là, on le constate depuis un an, Il y a de plus en plus de bouchons dans la traversée de Dreux. J'ai eu, il y a une quinzaine de jours, un jeudi soir, je crois, on avait les voitures s'arrêtaient à la hauteur de l'ancienne radiotechnique, hein, où il y a ce qu'on appelle le parc de la radio. Ça veut dire qu'il y a un bouchon qui se crée. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter notre secteur, et ça, on peut que s'en féliciter, des gens qui continuent à travailler sur la région parisienne. Et puis, il y a un flux constant supérieur de poids lourds, parce que le port du Havre et le port de Rouen sont là, on ne va pas les déplacer. Et bien entendu, tout ce qui nous vient de la région parisienne ou tout ce qui part sur l'Europe du Sud passe par Dreux, Dreux et Terneux. Donc les gens qui connaissent bien notre département, eh ben, ils font des choix. Ils font des choix quand ils sont à Nonancourt, ils font des choix quand ils sont à Marville-Moutier-Brûlé où on passe par Blainville, etc., etc. Alors là, ça devrait s'améliorer avec le rond-point qui vient d'être créé, j'espère. Et pareil à Oudan. Pareil à Oudan, les gens se disent « Ah, attendez, il est quel jour ? Il est telle heure ? On traverse pas Dreux, ça va être l'enfer, on va faire la queue, etc. » Donc ça devient un vrai problème.
Oui, mais les bouchons, que je ne conteste pas du tout, je vais souvent à Nonancourt, je vais souvent aussi au Guéosanne, c'est pas tout le temps le rond-point du Guéosanne, qui est quand même une absurdité sans nom de comment il est...
Qui n'est pas la nôtre.
Hein, je sais bien. Mais c'est quand même une absurdité sans nom. N'importe quel joueur de bac à sable sait que comment fonctionne une fontaine de billes. Hein, c'est pas en barrant la fontaine que ça marche le mieux. Et là, c'est tout à fait ça. Mais même quand on vient de Chartres sur le rond-point Léo, peut-être que ça va s'améliorer avec le nouveau rond-point, mais ça ne dure pas des heures et des heures dans la journée. Ça dure 3 fois 20 minutes ou 4 fois 20
minutes. Non, plus maintenant. Plus maintenant.
Non, moins avec le nouveau. Mais le Guéosanne, il faut revenir au Guéosanne.
Le Guéosanne, c'est toute la journée actuellement.
C'est pas toute la journée, c'est plusieurs heures par jour.
Remontées jusqu'à la Nationale 12, c'est vrai que, et pourtant, le circuit est long. Hein.
Ouais.
Bon, on peut l'avoir à 17h, 17h30, jusqu'à 19h, 19h30. Mais il y a une augmentation considérable de la circulation sur l'ensemble de nos rocades et nationales, parce qu'il y a de plus en plus de populations qui viennent habiter sur notre secteur, continuant à travailler sur la région parisienne. Alors bon, on pourrait remettre en cause les transports en commun, etc., etc. Ça, on peut toujours en discuter. Mais cette autoroute, quand elle a été privilégiée par le monde économique au début des années 80, moi, j'ai la chance, ou la malchance, d'avoir participé à cette première réunion qui a eu lieu à la Chambre de commerce, où il y avait, et ça remonte à longtemps, le sénateur Jean Cochon, qui était présent, et tous les élus considéraient que, économiquement, cette autoroute ne pouvait que nous apporter quelque chose. C'est vrai que plus de 35 ans après, cette autoroute vraiment nous manque. Il faut voir la circulation que l'on a sur l'agglomération chartraine. Je suis à Chartres tous les jours. On ne va pas prendre la rocade. C'est saturé. On est saturé. Et surtout que l'on fait aujourd'hui rouler à la fois des particuliers, mais aussi de plus en plus, et à cause des GPS extrêmement sophistiqués, des camions qui n'ont rien à y faire. On voit des camions avec des immatriculations étrangères qui se baladent sur nos routes de campagne. Je voudrais quand même rappeler que sur une route non adaptée à 35 ou 40 tonnes, le passage d'un camion, quand notamment il tombe de l'eau ou qu'il gèle, c'est l'équivalent d'un million, un passage, l'équivalent d'un million
de
voitures particulières. Donc on a une dégradation extrêmement forte de nos routes départementales, et on a la malchance d'être le deuxième département de France ou le premier département de France en kilomètres de routes départementales, parce qu'on a 7500 kilomètres de routes départementales à entretenir. Cette autoroute doit permettre non pas de faire circuler ce flux qui nous vient et qui nous viendra toujours des deux ports normands, c'est pas seulement ça. Il faut que ça permette à l'ensemble du département d'être irrigué. Ça veut dire que le département doit, dès maintenant, dès qu'il entreprend des investissements importants en matière routière, pour aller à Nogent-le-Rotrou, pour aller à Châteaudun, on doit, dès maintenant, imaginer la présence de l'autoroute et pouvoir que ça puisse irriguer l'ensemble de notre département. Autrement, effectivement, l'utilité des 88 km pour faire rouler des camions qui ne dépenseront pas un centime sur notre département, bon, au moins, les Euréliens n'auront plus à payer pour ces camions. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi et moi qui payons tous les jours dans une part de nos impôts pour faire passer tous ces camions qui viennent des deux ports normands pour aller dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe, voire ailleurs. Il suffit de compter, on a 9000 camions par jour.
Quand est-ce qu'on remet les portiques alors ?
Alors ça, le portique, nous, on était extrêmement favorables. Parce que
c'était une excellente idée.
Je rappelle que quand Nicolas Sarkozy a pris cette décision, je rappelle que nous attendions, nous, département, une recette annuelle de 3 500 000, qui nous aurait été très utile.
Si tu voulais parler de l'intérêt économique du département et en plus particulièrement de Dreux, grâce à cette autoroute pour laquelle tu as de grands espoirs, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots en très peu de minutes ?
Alors, en très peu de minutes, d'abord rappeler que il y a des chiffres qui sont très intéressants que les Euréliens n'ont pas. Le département d'Eure-et-Loir est couvert par l'agriculture à raison de 76,10% de son territoire. Si on y rajoute les territoires boisés, c'est 91,6% du département qui est totalement vierge de toute activité économique en dehors de l'activité agricole.
Mais c'est pour ça qu'on y vit, c'est pour ça qu'on est content d'y vivre.
Mais c'est pour ça que ce département attire aussi du monde. Il m'a été posé la question par le Césaire de savoir que, alors, cette autoroute, vous allez multiplier les zones d'activité. Non ! Ou, on nous a posé la question, est-ce qu'on ne va pas couvrir ce département de logistique ? Non ! En fait, l'idée, c'est simple, c'est de pas de mitage. C'est-à-dire, il n'est pas question tout au long de l'autoroute d'avoir un mitage de zones d'activité. C'est-à-dire, je multiplie, chaque fois que je passe sur une communauté de communes, une communauté d'agglomération, je multiplie les zones d'activité. Non, c'est pas ça du tout.
J'enregistre.
Et je pense que les zones d'activité devront se trouver à l'endroit où il y a des échangeurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de circulation sur nos routes départementales. Et en même temps, on le voit bien, la crise aidant. Covid, la guerre en Ukraine, on voit bien que notre pays doit se réindustrialiser, notre pays doit redevenir autonome dans bien des domaines et ne plus aller chercher son doliprane en Chine et ne plus aller chercher du blé en Ukraine pour fabriquer la baguette qu'on aime bien le matin. Donc, ça veut dire que ça va replacer l'économie au centre de notre autoroute. Et il faudra faire en sorte de se mettre d'accord avec les communautés de communes et les communautés d'agglomération, de ne pas installer de la logistique qui consomme énormément de terrain et qui fait rouler beaucoup de camions, mais plutôt utiliser ces zones d'activité et ces échangeurs pour réinstaller l'industrie de demain, c'est-à-dire les activités de demain.
Jacques, je te remercie. Ce que je te propose, on va sûrement se revoir parce qu'on a oublié de parler de tellement de choses. C'est pas que tu es bavard, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a ça aussi, mais il n'y a pas que. Je te remercie, monsieur le conseiller, d'avoir partagé le café avec moi et d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci, Jean-Marie.